J'aimerais que nous lisions quatre versets dans les Écritures, dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 22. Deuxième livre de Samuel au chapitre 22. Et nous allons lire des versets 17 à 20 de Samuel 22, versets 17 à 20. Je vais simplement commencer cette thématique, je ne vais pas être trop long cet après-midi. L'heure est déjà avancée. On va commencer notre sujet, puis on poursuivra durant la visio de mercredi soir. Donc 2 Samuel 22, 17 à 20. Donc contexte d'abord avant de lire le passage. David arrive à la fin de sa vie et là il écrit, ou en tout cas il chante un psaume de louange à Dieu. Et on va voir au travers de ces quelques versets pourquoi David en est à louer Dieu et pourquoi nous devrions aussi être encouragés à louer Dieu. Alors évidemment, nous n'avons pas la même vie que David, nous ne sommes pas à la même époque, mais nous avons le même Dieu et nous sommes faits de la même nature que David, en bien ou en mal. Et donc David a écrit ceci alors qu'il va bientôt mourir. Donc il parle de Dieu. « Il étendit sa main d'en haut, il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. » Et je vais m'arrêter là. Il y a plusieurs points que l'on peut constater dans ces quelques versets. Et déjà, il y a une première pensée, c'est dans le verset 18, où il est dit que David avait des ennemis qui était plus fort que lui. Ça, c'est un premier pas pour la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. C'est de reconnaître notre faiblesse par rapport à certaines situations. Pourquoi nous avons besoin d'être délivrés? Alors déjà, on peut parler du salut en règle générale, mais pourquoi aussi, durant notre vie chrétienne, nous avons besoin toujours de l'aide de Dieu? Parce que il y a des ennemis autour de nous, en nous, des ennemis, je dirais, que nous pouvons canaliser, que nous pouvons combattre et vaincre, et puis il y a des ennemis qu'on ne vaincra jamais. Et c'est pour ça que nous avons besoin de Dieu. Vous savez, la caractéristique d'un chrétien, normalement, c'est qu'il sait que Dieu est plus fort que ses ennemis. C'est ça la marche par la foi. Si on regarde aux géants, évidemment, on peut, en se comparant, avoir une forme d'humilité qui consiste à se dire « j'y arriverai jamais, ce sera toujours comme ça ». Mais c'est pas de l'humilité, ça. La vraie humilité, c'est de demander de l'aide. La vraie humilité, c'est de s'appuyer sur celui qui peut pourvoir à nos faiblesses. Et on voit ça dans la vie de David très tôt, quand on connaît l'histoire de David et Goliath. Pourquoi David a pu relever le défi devant Goliath? Pas parce qu'il était plus fort que Goliath, mais parce qu'il croyait que Dieu était plus fort que Goliath. Et qu'en marchant en unité avec Dieu, on marche dans la victoire, en réalité. Nous savons que quelques siècles auparavant, juste à la sortie d'Égypte, le peuple a eu peur des géants. Et ils ne sont pas entrés en terre promise à cause de ça, parce que ils n'ont pas cru que Dieu était plus fort que les géants. Ils comptaient sur eux-mêmes. Et donc, ils ont refusé le combat. Et vous savez, pour différentes raisons, ça peut être par tempérament, à cause d'expériences passées qui ont été douloureuses ou négatives, parce qu'on est peut-être sur une série d'échecs. Peut-être aussi à cause de notre éducation, ou parfois ceux qu'on aime et qui ont autorité sur nos vies, je pense aux parents en particulier, nous avons été dévalorisés, nous avons été... Il y a une forme d'ingratitude, ou il y a une exigence peut-être, un légalisme dans la famille qui fait que on ne se croit pas capable de grand-chose. Peut-être parce que des fois on est tombé amoureux de certaines personnes et qui, alors que on était indifférent pour elles, et ce fait qu'on espérait certaines choses, et puis encore une fois notre identité a été dévalorisée. Parfois on se compare au niveau de la beauté, on se compare au niveau de la force, on se compare au niveau de l'intelligence. Bref, on a tendance à remarquer nos faiblesses et à les mettre en avant en disant « voilà, c'est impossible. Je ne peux pas être heureux avec cette liste. Je ne peux pas être heureux avec ce que je vis, ce que je ressens, ce que j'expérimente, ce que j'expérimente. Et du coup, on minimise la puissance de Dieu. On n'est pas ami de Dieu, si vous voulez. Là, on n'est pas en équipe avec Dieu. On se sent seul, alors que Dieu veut nous aider. Mais il faut savoir une chose, c'est que la chair sera toujours plus forte que notre volonté. Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et cette faiblesse de la chair est en réalité une force pour nous faire tomber spirituellement. Le monde est plus fort que nous. Comment lutter contre les idées de ce monde, contre les tentations de ce monde, de lutter devant ce que le monde nous propose? Et ne parlons même pas du diable. Donc cette trinité ténébreuse, le diable, le monde, la chair, font de nous des perdants dès le départ. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et ce n'est pas simplement un slogan, c'est un mode de vie, de croire que je peux être vainqueur devant mes ennemis. C'est un mode de vie. Ce n'est pas de la prétention. La prétention, c'est de croire que nous, on peut gagner. Mais l'humilité, c'est de dire « mon Dieu va gagner pour moi ». J'ai un Dieu qui est avec moi, et si Dieu est avec moi, qui sera contre moi ? Rappelez-vous le verset de 1 Jean 4:4, hein, « Celui qui est en nous est plus fort ou plus grand que celui qui est dans le monde ». Est-ce que nous croyons, là, en cet instant, à 17h15, que c'est une réalité ? Que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Vous savez, ce que l'existence nous apprend sans Dieu, que l'on soit non-croyant ou alors un chrétien dans la chair, c'est qu'on est, quand on essaye de vivre cette vie avec ses propres forces, on va toujours rencontrer les larmes. On va toujours rencontrer la déception. On va toujours rencontrer la crainte, le remords, la culpabilité. Vous savez, c'est être avec une épée en plastique devant quelqu'un qui a une épée en acier. On peut toujours aller au combat, mais on va au-devant de déception. Et la vie ne fait pas de cadeaux. La vie ne fait pas de cadeaux. Parce que le péché est entré dans le monde. Et parce que aussi il est en nous, ce péché. Mais avec Dieu, il est possible de faire des exploits. Parfois, on va être vainqueur sur des années de mauvaises habitudes. Certaines personnes sont peut-être engoncées dans un péché, noyées dans un péché, luttent en permanence devant certaines tentations. Mais est-ce que vous croyez que Dieu peut être vainqueur sur la situation? Et je vais poser la question autrement. Est-ce que vous avez envie que Dieu obtienne la victoire? Parce que parfois, on ne marche pas par la foi parce qu'on ne souhaite pas vraiment se débarrasser de certaines choses. Ça fait partie de notre identité. C'est la convoitise qui est toujours là. C'est une poire pour la soif. C'est la jouissance du péché. Mais quelque chose qui est à court terme en réalité. Est-ce que nous voulons vraiment que Dieu soit victorieux? Parfois, on sait intellectuellement que Dieu est plus fort. Bien sûr qu'on le sait. Bien sûr. Vous savez, si on se retrouve, je ne sais pas moi, sur un terrain de jeu avec une arme, même admettons qu'elle soit vraie, mais qu'on n'a jamais appris à combattre et qu'on sait que dans ce parc-là, il y a quelqu'un qui rôde et qui a été formé au JIGN, au RAID, ou c'est un soldat d'élite, on peut toujours se dire, tiens, j'ai fait un pas, je suis toujours pas mort. J'ai fait un pas, je suis toujours pas mort. Mais on sait qu'on va perdre à un moment donné parce qu'on ne fait pas le poids. C'est un peu comme au tennis de table quand on jouait contre des gens beaucoup plus forts. En général, au bout de 2 balles, c'était terminé, quoi. Soit je mettais la balle dans le filet parce que le gars il avait fait un lift tellement compliqué que vous faites ça, la balle part dans tous les sens. Ou alors il vous met un smash et vous voyez rien. Puis parfois vous arrivez, ah il y a quelques échanges, ah dis donc, ah là on est content. Mais en fait on sait que ça va pas durer quand même. Il y a peut-être 10 échanges au lieu de 2, mais le résultat c'est que vous avez pas le point quand même. Et dans la vie, on fait un peu comme ça des fois, c'est toujours ça de prix, hein. Mais on sait qu'on va dans le mur en réalité. On connaît hein, cette image de la personne qui saute en haut d'un immeuble et qui, pendant qu'il tombe, il dit « jusqu'ici, tout va bien ». Il peut toujours dire la phrase, mais on sait ce qui va en résulter. En revanche, nous, nous croyons que Dieu est victorieux en nous. Et pour cela, devant les défis, alors si je reprends les histoires dans la Bible, c'est parfois traverser le Jourdain, alors que rien n'indique que ça soit très sécurisé. On marche par la foi, et l'homme, lui, ne peut rien faire de plus que de croire Dieu. Et Dieu lui arrête les eaux, près de la ville d'Adam. Et du coup, il passe le Jourdain à sec. C'est Dieu qui a été victorieux. Et ça va être Dieu qui va être encore victorieux à Jéricho. C'est Dieu qui, d'une autre manière, lors de la deuxième bataille contre Haï, va être le vainqueur aussi, et ainsi de suite. Israël a toujours brillé quand c'est Dieu qui combattait. Dieu ne nous demande pas d'être fort. Rappelez-vous, l'apôtre Paul dit « lorsque je suis faible, je suis fort ». Mais vous savez, quand on est en face d'un ennemi plus fort que nous et qu'on a un allié potentiel, c'est de l'orgueil que de ne pas lui demander de l'aide. Et on le voit quand on évangélise dans la rue ou qu'on discute des fois avec des proches, les gens pensent qu'ils peuvent... D'abord, soit ils ne croient pas en Dieu, mais en admettant qu'ils imaginent l'hypothèse, ils se disent « oh non, mais ça va, j'en ai pas besoin ». Mais nous, en tant que chrétiens, ne jouons pas à ce jeu-là. Ne cherchons pas forcément à être forts. Ne cherchons pas non plus à... Enfin, ne refusons pas le bras tendu de Dieu pour nous aider. Et David, ce qu'il constate à la fin de sa vie, c'est que il a toujours eu besoin de Dieu parce que ses ennemis étaient toujours plus forts que lui. Goliath était plus fort que lui. Saül était plus fort que lui, dans le sens où Saül avait l'armée pour lui, le pouvoir, l'autorité, le nombre de soldats. Au début, eux, ils étaient une petite troupe. Donc David, il a toujours été plus petit, mais pourtant il a toujours été victorieux. Et donc constater sa faiblesse, c'est pas de dire que la partie est terminée, c'est de dire j'ai besoin d'un allié. Seigneur, je constate ça dans ma vie, en moi peut-être, dans mes idées, dans mes pensées, où il y a peut-être une situation matérielle délicate, une relation difficile à restaurer. Ça va être difficile, ça me paraît impossible, ça a toujours été comme ça. Mais je vais te demander de l'aide, Seigneur. J'ai besoin de toi. Vous savez, si les chrétiens aujourd'hui, là, chaque jour, pouvaient dire à Dieu, j'ai besoin de toi, combien Dieu serait content. J'ai besoin de toi. Dieu est disponible. Si on vient avec un cœur simple, un regard simple, un œil simple. Et ça m'amène au deuxième point qui amène ce chant de louange, c'est que la délivrance, elle est par définition, dans le cadre spirituel et chrétien, elle est divine, la délivrance. Et je dirais même, elle est céleste. Rappelez-vous, regardez au verset 17, il est dit, en parlant de Dieu, hein, « Il étendit sa main d'en haut ». Illustrez ça dans votre imagination. Vous avez le ciel et la main de Dieu descend. Elle peut pas venir d'en bas, la délivrance. Elle peut pas venir d'à côté. Elle peut pas venir en nous. C'est une main qui vient d'en haut. C'est improbable. Ça ne peut pas arriver. On est dans un monde que l'on pense être clos. C'est ce que les agnostiques pensent. Hein. Ils sont pas forcément athées, les agnostiques. Ils disent que Dieu existe, mais nous, on doit se débrouiller. On peut pas connaître Dieu. Lui, il a peut-être créé le monde, les cieux et la terre, mais... Il fait autre chose maintenant, on n'a pas accès à Dieu, donc il faut qu'on se débrouille. Évidemment, devant certaines difficultés financières, on se dit des fois, comment est-ce possible? Devant, encore une fois, un péché, devant une insécurité, devant un problème au niveau de son image physique, on déplore ne pas être assez intelligent, on pense ne pas être mis assez en avant, on se sent seul, on se sent mis de côté, on est toujours au fond de la pièce, on se sent petit. Parfois. Mais la délivrance peut venir d'en haut pour restaurer notre identité. Alors la parole, elle vient d'en haut, par exemple. Ce livre, il n'est pas naturel. Ce livre n'a pas été écrit par une main d'homme, simplement. C'est comme le dit l'apôtre Pierre, poussé par l'esprit que les écrivains ont consigné ces mots qui venaient d'en haut. La parole de Dieu est une délivrance. Le corps de Christ peut être une délivrance. Ça peut être la main d'en haut qui va nous aider. Un frère, une seule sœur, quand on prie les uns pour les autres, par exemple, c'est une délivrance qui vient d'en haut. Prions les uns pour les autres dans la semaine. Pas simplement s'envoyer des SMS. Divisons le nombre de SMS par deux et prions deux fois plus, peut-être. Remplaçons un SMS par une prière. Vous faites peut-être les deux, mais ceux qui ne prient pas, peut-être, et qui envoyaient des SMS. Ben là, je veux dire, voilà, je vais faire moins de SMS aujourd'hui, et si je mets d'habitude 30 secondes pour écrire un SMS, je vais prier 30 secondes en envoyant un SMS au ciel. En disant, Seigneur, je prie pour telle personne dans l'église. Peut-être que cette maman est en souci avec ses enfants, je prie pour ses enfants. Je sais que telle personne dans l'église a un travail pénible, se lève tôt le matin, a un travail physique. Un autre a peut-être des pressions en tant que responsable dans son travail. On sait que certaines personnes sont malades, d'autres sont plus âgées. Donc il y a différentes circonstances et de se dire, Seigneur, je t'envoie un SMS parce qu'ils ont besoin d'une délivrance d'en haut. Ils sauront peut-être jamais comment ça a été initié, mais c'est entre nous, Seigneur. Et je crois que tu es capable. Et de la même manière, on va être au bénéfice des fois d'une main qui vient d'en haut. C'est des fois une délivrance par la communion fraternelle. Avoir des amis dans l'église, de se téléphoner, de se prendre des nouvelles. Il y a plein de manières que Dieu utilise pour manifester sa miséricorde. Et puis, il y a le Saint-Esprit. Des fois, on est seul, il n'y a personne qui pense à nous. On n'a même pas envie de lire notre Bible. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit, il nous parle des fois par différents moyens, au travers de nos expériences personnelles, des anecdotes, situations. Mais Dieu parle, ça vient d'en haut. On a besoin d'une délivrance qui vient d'en haut. Bien sûr, si des moyens ordinaires ou naturels viennent à nous, on les prend. Mais honnêtement, des fois la vie est un peu morose hein, quand tout est cadré, régenté et contrôlé. Dieu nous amène des fois dans des situations où on ne peut plus rien faire sans Dieu. Rappelez-vous, Jésus nous a dit, il a dit aux apôtres, il nous le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça que le légalisme n'a pas de sens. Le légalisme, c'est voilà ce que dit la Bible et débrouille-toi. Tu dois accomplir la chose. Le chrétien, lui, va dire, oulala, il y a tout ça dans la Bible, je ne peux pas. Mais tout est possible pour celui qui croit. Pour celui qui croit, pas en soi, pas en lui-même, pour celui qui croit en Dieu. Et donc, c'est une belle aventure. Et Jésus va en permanence œuvrer en ce sens. Et ça a commencé, vous savez, le salut, Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, vous connaissez ce verset, qu'il a envoyé son Fils, une délivrance qui est venue d'en haut. Il a fallu cette délivrance-là, mais ça continue, mes amis. Ne croyez pas que le christianisme s'arrête, que l'aide de Dieu s'arrête une fois sauvé. C'est bon, t'es sauvé, et maintenant tu te débrouilles. Non. Vous savez, j'utilise souvent la notion d'une la personne qui nage en plein milieu de l'océan Atlantique et qui va forcément à un moment donné se noyer. Que ça soit un champion olympique ou quelqu'un qui ne sait pas nager, il y en a un qui va se noyer au bout de quelques minutes, l'autre il va peut-être nager 24 heures, mais il va se noyer aussi, résultat est le même. Donc on parle souvent de cette illustration, c'est les gens disent « mais moi je sais nager, dans le sens j'ai pas besoin de Dieu ». Mais au bout d'un moment, ils vont mourir aussi. Donc, tout le monde a besoin de Dieu en réalité. Même s'il y a des gens qui s'adaptent mieux que d'autres à la vie sur la terre, c'est vrai. Ils ont des dons, des capacités, ils ont hérité, ils sont en bonne santé. Mais, in fine, on aura toujours besoin de Dieu, notamment quand on va le rencontrer là-haut. Je vais utiliser cette image, mais d'une autre manière. Imaginons que le sauveteur vienne, en plein milieu de l'Atlantique, et vous donne une bouée. Une bouée qui peut pas perdre l'air qui est à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est bon, on peut l'utiliser pendant des mois. Vous n'allez pas vous noyer, mais vous n'allez pas vivre longtemps non plus. Et le chrétien, des fois, il vit comme une forme de de famine spirituelle, parce que il est sauvé. Quand on est sauvé, c'est pour l'éternité. Dieu a envoyé une bouée, il a tendu sa main, il nous a délivré du royaume des ténèbres pour nous placer dans le royaume du Fils de son amour. On est en sécurité. Mais parfois, beaucoup de chrétiens ont soif et ont faim. Et ils essayent de trouver à boire et de la nourriture dans ce monde-ci, dans un monde qui ne va pas en réalité les rassasier. Vous savez, quand vous avez faim et que vous mangez, c'est déjà pas mal. Et Dieu, dans sa grâce, permet ce genre de situation spirituelle. On mange. Mais quitter la table en ayant encore faim, c'est pas agréable quand même. On a mangé un peu, on survit. Mais imaginez, allez, t'as vraiment faim, ok, t'as le droit à ça, c'est tout. T'attends le soir. Puis le soir, encore un peu de nourriture, mais pas. Faut attendre le lendemain matin. Et tous les repas comme ça. D'un moment, hein. Alors on mange. C'est pas la famine. Mais la vie chrétienne, c'est pas ça. Le Seigneur nous dit qu'il va nous donner la vie en abondance. C'est une promesse. Donc si nous n'avons pas la vie en abondance, d'où vient le problème? C'est Dieu qui répond pas, qui n'honore pas ses promesses? Non, bien sûr. Soit nous désobéissons, soit nous n'avons pas compris certains principes dans la vie spirituelle. Seigneur, j'ai besoin d'un libérateur en permanence. J'ai besoin que tu me délivres. Et puis, je terminerai sur un dernier point pour aujourd'hui. Et ça aussi, c'est intéressant parce que c'est le bon équilibre entre l'ego. Tout à l'heure, on parlait de l'orgueil et de l'humilité. On peut confesser qu'on est faible, mais en même temps continuer d'être orgueilleux parce qu'on ne demande pas de l'aide à Dieu ou à quelqu'un que Dieu voudrait utiliser pour nous aider. Ça, c'est de l'orgueil ou du misérabilisme ou de la fausse modestie. Mais au niveau de la vie chrétienne aussi, il est bon de partager, de donner, mais en même temps, Dieu veut quelque chose pour nous personnellement. Et ça, c'est ce que David dit au verset 17, c'est que la délivrance, elle est personnelle. Il me saisit. Voyez, c'est moi qui l'a saisi. Je sais, pour ma part, quand je me suis converti, c'est moi qui ai rencontré Dieu. C'est pas mon église qui a rencontré Dieu. C'est pas mon église qui a été sauvée. C'est pas les chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit. C'est moi. C'est moi. Il s'est passé quelque chose pour moi. Et c'est extraordinaire, ça. C'est-à-dire que on est une fratrie, on est des frères et sœurs, mais il y en a normalement aucun qui doit être frustré. Parce que chacun reçoit sa part parfaitement. Dieu pourvoit à chacun de nos besoins. À chacun de nos besoins. Si la délivrance, elle n'est pas personnelle, il y a une frustration qui s'installe dans nos vies. Prenons le cas d'une vie d'église. Par exemple, je suis chrétien, je vais dans une église. Imaginons que ça soit une église, j'espère celle-là, mais imaginons que ça soit pas celle-là, c'est une autre. On va pas être prétentieux, mais une église vraiment remplie du Saint-Esprit, fervente, voilà, des beaux fruits, une piété chez les croyants, une bonne communion fraternelle, des âmes qui sont amenées à Christ. Voilà, une bonne vision. Les gens qui font partie de ce troupeau sont bénis par association, mais pas toujours personnellement. Et donc, être béni par association, c'est déjà bien. Autant les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, les bonnes compagnies, ça fait du bien à l'âme. Donc c'est très bien d'être dans une bonne église. Mes amis, ça ne suffira pas. Si vous n'expérimentez pas personnellement la délivrance de l'Éternel dans certains domaines de votre vie, qui vous regardent, qui vous sont propres, la vie est fade quand bien même vous vous rassemblez et que vous répondez aux critères ordinaires de la vie chrétienne. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une vie très particulière. Vous savez, c'est un peu comme si vous avez une tablée où un repas leur a été servi à cette table, toute la tablée peut dire « Ah, on a bien mangé !» Mais s'il y en a un qui n'a pas mangé, il ne peut pas être au bénéfice de ce que les autres ont mangé. Et donc, nous avons besoin de cultiver cette relation personnelle avec Dieu. Et pour la cultiver, il y a plusieurs choses. Évidemment, vie de prière, étudier sa Bible, méditer, obéir. Mais aussi, il y a une bénédiction à prendre des défis. Encore une fois, le défi de « je n'y arriverai jamais dans ce domaine-là » ou « je penserai jamais autrement, je suis nul, je m'aime pas, je suis moche, je suis pas assez intelligent, j'ai raté ma vie, à quoi ça sert, j'ai mal éduqué mes enfants, j'ai pas été sage avec mes parents hein, », pour parler des deux générations. Mais voilà, on peut toujours se dire ça. Mais le Seigneur a payé le prix pour toutes nos erreurs et il veut nous restaurer. Il veut nous envoyer une main d'en haut. Une main qui guérit, une main qui restaure, une main qui aide, une main qui est fidèle. J'ai noté d'autres versets dans les psaumes liés à cette délivrance personnelle. En psaume 40, verset 2, « Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. » Là, on voit bien l'image. Hein. La fosse de destruction, moi, ça me fait penser un peu, je sais pas moi, chez les ferrailleurs, hein, on va détruire une voiture, une fosse de destruction, ou alors du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Un autre verset, psaume 69, versets 1 et 2. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue, sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Voyez, ce psalmiste-là, il décrit sa misère, mais il croit que Dieu peut le délivrer, qu'il peut le sauver. Pas nous, pas eux, moi. Moi. Et donc là, on a vu trois points dans ces passages, mais qui sont importants à considérer. On doit réaliser que oui, nous sommes faibles. On a besoin d'être délivrés. Deux, on va pas être délivré par un moyen naturel, forcément. Parfois, je pense que c'est cette chose-là qui va me rendre heureux. Et puis, Dieu va pas pourvoir en ce sens. Mais, par une vie spirituelle et une action de Dieu dans ma vie, ça peut prendre quelques années, quelques mois, quelques semaines, quelques jours. Je vais m'apercevoir que je vis une plénitude de vie sans avoir besoin de la chose que je convoitais, mais parce que Dieu m'a délivré et il a pourvu d'une autre manière. Donc, je suis faible, j'ai besoin de l'aide de Dieu. Et, ça doit venir d'en haut, et c'est une aide personnelle. Et quand on réalise déjà cela, ça nous amène vers la piété, la reconnaissance et la louange. Alors évidemment, ça peut paraître très abstrait parfois, ça peut être joli à entendre, mais demandons au Saint-Esprit peut-être de nous rappeler certaines séquences de notre existence et de se dire, ouais, Seigneur, dans ce domaine, j'ai vraiment été faible. Là, je ne m'en serais jamais sorti si tu n'étais pas intervenu d'en haut. Et merci parce que c'est moi que tu as délivré. Tu as fait que les choses se fassent par des circonstances, des gens, ton Saint-Esprit qui m'a conduit, j'en sais rien, qui fait que c'est moi qui ai reçu cette bénédiction. Et à partir de cette confession, de ce qu'on appelle la doctrine du souvenir, c'est de se dire, Seigneur, bah maintenant pour l'avenir et devant les défis qui sont les miens, aide-moi à fabriquer d'autres souvenirs avec toi, d'autres délivrances. Et nous avons un Dieu qui est fidèle, qui ne se fatigue pas de nous aider. Et c'est ce que David, à la fin de sa vie, a pu écrire. Il n'a pas pris que des bonnes décisions, David. Il en a pris de belles. Enfin, il a eu des hauts et des bas. C'était sa vie. Mais en fin de compte, il a pu dire, « Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Waouh, t'as été là. Ah, j'étais un gamin quand Samuel est venu me chercher, mais tu m'as délivré. » Prions.